voici une question dont la réponse est très importante à bien comprendre. À quoi peuvent s'attendre ceux qui insultent Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a simplement quatre petites questions aujourd'hui. Mais quel enseignement on va recevoir à travers les réponses que la Bible va nous donner aux questions que voici. Qu'est-ce qu'un peuple s'attire s'il est désobéissant, incrédule et rebelle envers Dieu? Est-il possible qu'une coutume dans une église devienne de l'idolâtrie? À quoi peuvent s'attendre ceux qui insultent Dieu? Est-ce que le rôle d'une mère est important dans la vie d'une personne? Demeurez avec nous, les Saintes Écritures vont nous donner un très bon enseignement par la bouche du pasteur Régent Joly en réponse à nos questions. Demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs par sa parole. Prions. Ô Seigneur, il n'y a personne comme toi pour toucher un cœur. Il n'y a rien comme ta parole pour faire du bien à une âme. Merci pour ta parole. Merci pour toi, Seigneur, tout ce que tu es pour nous. Je t'aime, Seigneur, et je suis certaine que ceux qui écoutent t'aiment aussi. Ils aiment recevoir ta parole. Alors instruis-nous aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Touche-nous profondément. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'Akaz a entraîné le royaume de Juda dans l'idolâtrie et qu'il a acheté les Assyriens afin qu'ils l'aident contre la Syrie et Israël. Ensuite, Israël fut emmené en captivité par Salmanazar, roi d'Assyrie. Le peuple fut dispersé parmi les nations, et des colons furent amenés dans la région de Samarie. Les descendants de ces peuples qui se sont mélangés sont les Samaritains que nous rencontrons aujourd'hui en lisant le Nouveau Testament. La désobéissance, l'incrédulité et la rébellion ont attiré le châtiment de Dieu qui fut très patient et qui avertit souvent Israël avant de frapper le royaume. Nous avons énuméré la liste des prophètes que Dieu a envoyés envers son peuple. Le cœur des humains est prompt à se virer vers l'idolâtrie. De plus, nous avons démontré qu'il n'y a pas 10 tribus d'Israël qui sont perdues. Le terme juif englobe des personnes de toutes les tribus. Maintenant, nous allons nous pencher sur le roi Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Ces événements sont si importants qu'ils sont aussi mentionnés dans le deuxième livre des Chroniques ainsi que dans le livre du prophète Ésaïe. De plus, puisqu'Israël est en captivité, nous allons désormais nous intéresser seulement au royaume de Juda. Si Juda a échappé à la captivité, c'est qu'il y eut des réveils religieux sous quelques bons rois. Ézéchias est un de ces bons rois. En fait, ce fut le meilleur roi qui régna après David. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 3. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Akaz, le père d'Ézéchias, fut un très mauvais roi. Cependant, son fils fut un excellent roi. Ceci nous amène à croire que la mère d'Ézéchias eut une bonne influence sur son fils. Nous apprenons qu'elle s'appelait Abi. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Ézéchias fut un homme remarquable, et il eut un grand réveil sous son règne. Il commença par essayer d'éliminer l'idolâtrie du pays. Il faut combattre les idoles que l'on peut avoir dans notre cœur. C'est là que commence le combat, chers amis. Et laissez place à Dieu seul, à notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Car le Fils fut crucifié pour nous sauver. Nous apprenons ce qu'est devenu le serpent d'airain qui avait été fabriqué un peu avant d'entrer dans la terre promise, rappelez-vous. Lu dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 1 à 9. Le serpent avait été conservé. Il faisait naturellement un merveilleux souvenir et il avait été placé dans le temple. Le peuple en vint à vénérer ce serpent. Plutôt que de regarder vers ce serpent avec foi, comme le faisait leur père, qui avait été mordu par des serpents dans le désert, ils en firent une idole. Ce serpent devint une occasion de chute, chers amis. Le peuple avait oublié sa signification première. Selon l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, ce serpent était une image du Seigneur Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le serpent d'airain était une image ou un symbole de la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Maintenant, le peuple adorait le serpent plutôt que d'adorer Dieu. C'est comme si on adorait les panneaux signalisateurs que nous avons à bord des routes plutôt que de circuler sur la rue. Dans la ville de Pergame, une des sept villes dont l'Église est mentionnée dans l'Apocalypse, un serpent était vénéré. Il semble que les enfants d'Israël faisaient la même chose. Ils brûlaient des parfums devant le serpent qu'ils appelaient Nehushtan. Ézéchias a détruit le serpent, et il était plus que temps que cela soit fait. Une organisation ou une méthode de travail est-elle votre idole? Il y a une excellente leçon spirituelle pour nous dans cet épisode. Dans le passé, Dieu a utilisé certaines organisations et certaines méthodes de travail. Malheureusement, les gens ne se sont pas rendus compte que Dieu n'en avait plus besoin, et ils refusèrent de terminer ses ministères. Je peux vous nommer une demi-douzaine de telles organisations qui furent des instruments entre les mains de Dieu dans leur temps, mais qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Elles continuent d'opérer seulement pour conserver les emplois de ceux qui en font partie. Ces organisations sont devenues des Nehushtan, tout comme le serpent d'airain dans le désert, qui fut utile en son temps, puis le jour vint où Dieu n'avait plus besoin de ce serpent d'airain. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, raconte qu'il a visité de nombreuses églises qui fonctionnent de la même façon depuis plusieurs décennies. Les membres disent: nous avons toujours fait les choses ainsi. Pourtant, il serait peut-être temps de modifier certaines façons de faire. Dieu n'est pas un être monotone. Vous rendez-vous compte que Paul n'a jamais fait d'invitation après un service? Il n'a jamais invité les pécheurs immédiatement à se détourner de leurs péchés et à se tourner vers le Christ. Cette coutume fut introduite dans les églises par D. Dwight L. Moody. Maintenant, de nombreux évangéliques pensent qu'ils doivent faire une invitation ou un appel afin que les gens s'avancent à la fin d'un service. La coutume devient une occasion de chute, chers amis. Dieu a inspiré Dwight Moody à utiliser cette méthode, mais cela ne veut pas dire qu'il vous demande d'en faire autant à chaque fois que vous prenez la parole. Vernon McGee fut pasteur dans une église de Los Angeles. Et une invitation était faite le dimanche et des personnes y ont répondu. Cependant, les conversions les plus fructueuses se firent lors de l'étude biblique du jeudi soir au cours de laquelle personne ne faisait d'invitation. Dieu peut demander à quelqu'un de le faire sans vous le demander. il est facile de vénérer l'équivalent d'un serpent d'airain et de l'appeler Nehushtan, c'est-à-dire une idole. J'ai pris plusieurs minutes pour traiter cette question, car je crois qu'elle est d'une grande importance, chers amis. Louons Dieu qu'Ézéchias ait détruit ce serpent. J'ai l'impression que certains chrétiens, au visage triste, critiqueraient Ézéchias pour avoir détruit un si beau serpent. Louons plutôt Dieu que ce fut fait. Et si vous avez des petites idoles dans votre église, ou dans votre foyer, dans votre vie, c'est le temps de vous en débarrasser. Se peut-il que ce soit le temps de modifier une de vos façons de travailler? Revenons à notre texte, versets 5 et 6. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. S'il n'y eut personne de semblable à Ézéchias avant ou après lui, alors il fut exceptionnel. Il est l'égal de David. Ce fut un grand roi que Dieu utilisa avec puissance. C'est pourquoi la Bible parle de ce personnage dans trois livres. Versets 7 à 10. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Ézéchias fut un roi courageux qui se révolta contre la Syrie et qui défia les Philistins, l'ennemi juré d'Israël. Ézéchias régnait depuis 6 ans lorsque le roi d'Assyrie prit Samarie. Le royaume du Nord était défait, et il n'y avait même pas une clôture de barbelés pour séparer Juda de la Syrie. Le roi Ézéchias ne se trouvait pas dans une situation enviable, mais il est demeuré fidèle à son Dieu. Versets 11 à 14. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. La révolte d'Ézéchias contre le roi d'Assyrie fut un échec. À cause de cet échec, il doit payer un tribut au roi d'Assyrie. Versets 16 et 17. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Le roi Sanchérib menaça Jérusalem avec une grande armée. Versets 18 et 19. ils appelèrent le roi, et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? » Rabshaké essaie d'effrayer Juda en suggérant deux choses. Les voici au verset 20 et 21. « Tu as dit, « Il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Sachant qu'Ézéchias attend de l'aide de l'Égypte, Rabshaké ridiculise l'Égypte en traitant le pays de roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. En fait, il dit, « L'Égypte ne peut pas te secourir. » Ensuite, il fait une deuxième suggestion. Verset 22. « Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. » Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. » Si vous insultez Dieu, attendez-vous à ce qu'il protège sa gloire. Lorsque Ézéchias a éliminé les hauts lieux, Sanchérib a pensé qu'il détruisait les autels du vrai Dieu vivant. Il n'a rien compris de ce qu'Ézéchias faisait à ce moment-là. Ézéchias nettoyait le pays de l'idolâtrie, ce qui était un acte d'obéissance et non un sacrilège envers Dieu. Les Juifs devaient venir à l'autel du temple pour présenter des sacrifices. Sanchérib a erré en pensant qu'Ézéchias a rejeté Dieu alors qu'il avait besoin de lui plus que jamais. Verset 23. « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. » Ces paroles sont une insulte et elles démontrent un mépris de la puissance militaire de Juda. Jusqu'où va l'orgueil de l'homme? Verset 26. « Éliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joash, dirent à Rabshaké, « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Tout le peuple entendait ce qui se disait. Les officiers demandèrent à Rabshaké de parler en araméen, mais celui-ci refusa, car il désirait démoraliser la troupe. Versets 28 et 29. Alors Rabshaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. » La propagande ne date pas du XXe siècle, chers amis. Depuis que l'homme a péché, versets 30 à 32, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, « L'Éternel nous délivrera. » Rabshaké veut convaincre le peuple de capituler. Il affirme que Dieu et Ézéchias ne peuvent les aider. Il leur promet la vie sauve s'ils se rendent, il leur propose de leur laisser leurs vignes jusqu'à ce qu'ils les déportent dans un pays aussi bon que le leur. Les conquérants dispersaient les peuples pour les affaiblir et les empêcher de se révolter. Versets 33 à 35. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi de Syrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Héna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Rabshaké pensait avoir un argument irréfutable. C'était vrai qu'aucun autre dieu n'avait délivré son peuple de la main du roi d'Assyrie. Il ignorait que les dieux des nations n'étaient pas de véritables dieux, et que le dieu vivant de Juda régnait sur toute la terre. Verset 36. Le peuple se tut, et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Vu l'ordre de se taire, nous ne saurons jamais quelle impression fut faite sur le peuple. À la prochaine émission, nous verrons comment Dieu réagira aux insultes de Sanchérib. Souvent, Dieu a délivré son peuple qui ne le méritait pas parce que les païens rabaissaient Dieu au niveau de leurs idoles. Dieu protège sa gloire. Revenons sur ce fait fort intéressant. Dans tous ces récits, nous voyons que la mère joue un rôle très important. Dans cette émission, nous avons vu une nouvelle fois la valeur d'une mère qui craint Dieu. Ézéchias n'a pas appris la crainte de Dieu d'Akas, son père idolâtre. Nous savons seulement deux choses de cette femme. Elle s'appelait Abi et son père était Zacharie. C'est elle qui a dû donner à son fils le respect envers Dieu. Le père d'Ézéchias a plutôt défait le lieu saint du temple pour y placer des idoles. Le rôle d'une mère n'est jamais négligeable. Je connais deux jeunes hommes de deux familles dont la mère était chrétienne et le père ne l'était pas. Ces deux jeunes hommes ne furent jamais encouragés à marcher dans les voies de Dieu par leur père, qui s'intéressait davantage au succès professionnel et à s'enrichir. Pourtant, leur mère aimait le Seigneur, et le Seigneur a placé deux jeunes hommes à le servir, un dans une organisation chrétienne, l'autre comme pasteur. C'est dommage que le rôle de mère soit tellement dévalorisé de nos jours. C'est un rôle précieux lorsqu'il est rempli sous la direction du Seigneur Jésus. Soyez attentifs à ces paroles que je vais vous citer, tirées de la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 3 à 5. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Trois générations. Timothée, sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs, qui a eu une influence sur la vie de Timothée, la foi de sa grand-mère et la foi de sa mère. Mesdames, persévérez et investissez dans la vie de vos enfants. Le rôle d'une mère n'est jamais négligeable. Reçois cette exhortation comme venant de Dieu et de sa parole, transmise de génération en génération. Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, 2 Rois, chapitre 19.
Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui combien le roi Sanchérib et Rabshaké ont eu du mépris envers ceux qui mettaient leur confiance en Dieu. Je n'aurais pas voulu être à la place du roi Sanchérib, qui a fait dire au peuple qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Il ne savait réellement pas ce qu'il disait et surtout, il ne réalisait sûrement pas que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est omniprésent aussi, qu'il est présent continuellement en tout lieu et qu'il est tout puissant, qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Ça me fait penser à la période du Titanic, ce paquebot transatlantique britannique qui, lors de son premier voyage, a coulé dans la nuit après avoir heurté un iceberg. Plus de 1500 personnes ont péri dans ce naufrage. Et pourtant, un expert avait dit que ce navire était insubmersible et que même Dieu ne pourrait pas réussir à le faire couler. Eh bien, cet homme venait de dire une parole de trop. Et Dieu l'a entendu. On ne se moque pas de Dieu. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens qui se moquent d'une personne parce qu'elle est chrétienne, ou quand on menace un enfant de Dieu de lui faire du mal, il faut que ces personnes ne connaissent réellement pas Dieu pour affirmer de telles choses. Ils ne savent vraiment pas ce qui les attend. Oh, bien sûr, il est possible qu'ils ne subissent rien pour un temps, mais s'ils ne se repentent pas, s'ils ne reçoivent pas le pardon de Dieu, tôt ou tard, ils vont rencontrer leur iceberg. Dans le livre de l'Ecclésiaste au 8e chapitre, des versets 11 à 13, Salomon nous dit quelque chose de vraiment bon à ce sujet. J'aimerais vous le lire. Il dit, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Mes amis, quand je vois tout ça, ce que je désire, ce n'est pas que Dieu tire vengeance de ceux qui font du mal à ses enfants. Ce que je désire, c'est ce que Dieu désire. Dans le livre d'Ézéchiel, au 33e chapitre, au verset 11, le Seigneur dit à Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. » Mon ami, c'est ça la vraie repentance. On est tous pécheurs. David dit dans le psaume 14, au verset 2 et 3, que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et que tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Paul dit, au verset que je cite tellement souvent dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement, bien que Dieu haïsse le péché, il aime le pécheur, sa créature, à un point tel qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Mon ami, repens-toi, change de conduite, demande pardon à Dieu, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.